coq chante et le jour paraît, tout se déboule dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Les spécialistes distinguent deux types d'agriculture, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Le deuxième mode de production agricole se caractérise principalement par le souci de la préservation de la santé du consommateur, la qualité et le goût des produits et la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Aujourd'hui, dans le Coq Chante, nous allons examiner ensemble les chiffres de l'agriculture bio en France pour l'année 2018. Cette agriculture biologique a une histoire. On va tenter de faire court. Plusieurs courants d'idées ont contribué à la naissance de l'agriculture biologique. Il y a eu l'agriculture biodynamique en Allemagne, l'agriculture organique en Grande-Bretagne et l'agriculture biologique en Suisse. Après s'être développé en Autriche, en Allemagne, en Suisse et en Angleterre dans les années 20, l'agriculture biologique fait son apparition en France au début des années 50. Sautons des étapes importantes pour dire que la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France est créée en 1978 par des agriculteurs biologiques. En France, toute cette affaire est le domaine de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Les chercheurs et les différents acteurs disent tout simplement l'Agence bio. Chaque année, cette agence bio fait l'état des lieux et publie les chiffres de l'année écoulée. Voilà pourquoi nous nous préoccupons aujourd'hui de l'année 2018. Philippe Henry, agriculteur bio, membre de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France, est le tout nouveau président de l'agence bio. Alors, pour que le propos soit plus clair pour nos auditeurs, avant de parler de l'agence bio, moi je vais vous demander de nous parler de l'agriculture bio. D'un autre côté, il y a ce que vous appelez agriculture conventionnelle, l'autre côté, l'agriculture biologique.
Alors l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui respecte les cycles naturels, qui s'appuie sur l'environnement finalement, qui permet l'agriculture, l'air, l'eau, les sols, et qui le fait, je vais le qualifier sans artifice. Alors les deux artifices qu'on connaît bien, c'est les pesticides et les engrais chimiques, qui sont utilisés en conventionnel mais qui sont interdits en bio. C'est la grosse différence entre les deux types d'agriculture. Et puis c'est une agriculture qui est aussi plus diversifiée, parce que quand vous n'utilisez pas d'engrais et pas de produits phytosanitaires, eh ben, il faut que vous mettiez d'autres leviers en œuvre pour arriver à produire un certain nombre de matières premières agricoles absolument indispensables.
Bah, vous devez de toute façon fertiliser, mais là vous utilisez des fertilisants naturels.
Absolument, on utilise pour fertiliser, on utilise par exemple nos fumiers ou nos fientes de volaille sur mon exploitation.
Ah, c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure un cycle vertueux.
Voilà, c'est ce que j'ai appelé un cycle vertueux, c'est l'autonomie de l'exploitation. On est dans une économie circulaire à l'échelle de l'exploitation.
Ah, c'est-à-dire que ce que je cultive, les résidus de mon agriculture, ça sert à nourrir les animaux. Les effluents de la ferme, ça sert de fertilisant.
Exactement, c'est pas des déchets, c'est des matières nobles, parce que dedans il y a de l'azote, et l'azote ça permet de faire pousser les plantes. Donc tout ce qui est fiente de volaille ou tout ce qui est fumier, c'est pas un déchet, c'était un fertilisant, c'est un engrais, il faut appeler les choses par leur nom.
Mais pourquoi quand j'ai dit le mot déchet, ça vous a hérissé, monsieur le président?
Parce qu'on associe toujours le mot déchet, c'est péjoratif le mot déchet. Et alors que c'est pas un déchet, voilà, c'est tout simplement quelque chose qu'on peut réutiliser.
Donc l'agriculture conventionnelle s'appuie sur la science. Quand elle n'a pas de solution, forcer la nature. L'agriculture biologique fait de la nature un allié. Est-ce que je résume bien ?
C'est assez bien résumé, et nous faisons de la science aussi. C'est-à-dire que moi je suis très attaché à l'agriculture biologique, c'est une agriculture très technique. Parce que pour comprendre les interactions entre les différentes plantes par exemple, eh bien, il faut de la science. Le côté scientifique de l'agriculture biologique est extrêmement important. Quand vous voulez éviter un certain nombre de maladies, éviter un certain nombre de problèmes, il faut qu'en amont vous ayez compris comment fonctionne votre écosystème, comment fonctionne votre sol, comment fonctionnent les plantes les unes par rapport aux autres. Et ça c'est de la science, et je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail pour que nous puissions arriver à des résultats encore meilleurs en agriculture biologique. La science nous aidera beaucoup dans ce sens-là.
On est parti de votre parcours, l'agriculture bio, maintenant un troisième exercice. C'est quoi l'agence bio ?
L'agence bio, c'est en fait une structure d'État qui a été faite pour promouvoir la bio à l'origine. Elle a un rôle de production de statistiques pour savoir où en est la bio, tous ces éléments chiffrés-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième mission, c'est de promouvoir le développement de l'agriculture biologique, notamment au travers d'un fonds qui s'appelle le Fonds Avenir Bio, qui est financé par le ministère de l'Agriculture. Et c'est un fonds qui est destiné à aider des entreprises, enfin des projets en fait, au service de l'agriculture biologique. Et puis enfin, elle a un rôle d'information, de diffusion, comme on le fait aujourd'hui, de ce qu'est l'agriculture biologique, de la façon dont elle évolue et des enjeux qu'il y a autour de ce mode de production.
Si moi, agriculteur conventionnel, je veux passer au bio, oui. Je peux venir vous voir.
Alors, pas directement.
Ou bien c'est pas aussi...
C'est pas aussi clair que ça en général, parce que maintenant vous avez dans tous les départements un petit peu des lieux où vous pouvez, alors soit dans les DDT, soit dans les chambres d'agriculture, soit dans le réseau FNAB, vous avez des lieux où vous pouvez vous renseigner, où vous pouvez regarder comment vous, agriculteur, comment vous pouvez transformer votre ferme pour la passer en bio. Ça, vous avez ça dans les départements. Nous, on essaye à l'agence d'avoir une vue un peu plus générale sur ce qui se passe en France d'une manière générale, et de regarder quelles sont les évolutions, les tendances pour accompagner le ministère aussi dans sa façon de conduire la politique agricole, et en particulier pour ce qui concerne l'agence, la politique agricole concernant les bio.
C'est quoi les DDT ?
Les DDT, c'est les directions départementales des territoires qui gèrent en particulier notamment l'agriculture au niveau de chaque département.
Ah oui, parce qu'il faut d'abord la matière première de l'agriculture, c'est d'abord la terre.
Absolument. On a eu tendance avec nos engrais et nos pesticides un peu à les stériliser, nos sols. Et maintenant, il faut faire le chemin inverse. Mais ça ne veut pas dire revenir à l'agriculture d'avant. Ça veut dire faire une nouvelle agriculture avec les données, les connaissances d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, cette agriculture biologique, c'est 41 600 fermes, soit près de 9,5% des exploitations en France. En 2018, cela représente 2 millions d'hectares, ce qui correspond à 7,5% de la surface agricole de la France. On voit que ça commence à compter. Comment nous savons toutes ces choses? Il se trouve que chaque année, pendant la première quinzaine du mois de juin, l'agence bio et ses partenaires dans les régions organisent une série de manifestations en direction du grand public. Cette campagne de sensibilisation est plus connue sous le nom de Printemps Bio. Et par la même occasion, les techniciens font l'état des lieux.
Oui, nous on a absolument besoin de regarder comment les choses évoluent, hein, d'où on vient, enfin tout, et puis surtout avoir des chiffres pour construire la suite. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont très importants. De quelle façon les politiques publiques vont accompagner les agriculteurs dans leur changement. Il faut que tous ces éléments-là, on ait une base, on va dire, statistique et chiffrée qui soit solide pour pouvoir mener les bonnes politiques.
Ah, c'est pour ça que dans votre conférence, là, c'est plein de chiffres.
Oui, absolument. C'est plein de chiffres. Florent nage là-dedans comme un poisson dans l'eau. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai que les chiffres, ils sont quelquefois un peu rébarbatifs, mais quand même un petit peu utiles pour construire des politiques intéressantes.
Je vous remercie, je vois Florent, comme vous avez dit.
On fait trois choses à l'agence bio.
Florent Gull est le directeur de l'agence bio.
On travaille sur les chiffres de l'ensemble du secteur de l'agriculture biologique en France, et on observe aussi l'Europe et le monde. Donc quand je dis l'ensemble, c'est la production, la transformation et la distribution. Deuxième activité qu'on a, c'est de la communication. On explique au grand public ce qu'est l'agriculture biologique, comment ça fonctionne, justement quels sont les chiffres, quels sont les contrôles, etc. En faisant des films, en étant sur les réseaux sociaux, enfin toutes les méthodes qu'on peut utiliser. Et enfin, troisième sujet, nous soutenons des projets de transformation et de collecte de produits bio pour finalement faire des filières 100% bio françaises du champ jusqu'au magasin.
Ah, ça veut dire que par exemple, si j'ai mon épicerie et que je veux passer au bio, je ne fais pas ça n'importe comment.
C'est ça, c'est ce qu'aujourd'hui on commence à se rendre compte que le développement de la consommation de produits bio n'est plus que sur des produits bruts comme au départ les fruits et légumes frais, etc. Mais qu'il faut pouvoir faire des produits élaborés, du fromage, du pain, du vin, etc. Et donc, il faut des outils de transformation. Pour le vin, il faut effectivement un viticulteur, il ne faut pas simplement ramasser le raisin. Pour du pain, il va falloir faire du stockage du blé, puis...
Et du blé bio d'abord.
Voilà, il faut que tout soit bio. En fait, l'important, c'est qu'on garantit au consommateur que quand il va acheter une baguette bio dans une boulangerie qui affiche que c'est du pain bio, eh ben, ça veut dire que la farine, le blé de départ aura été bio, la farine est bio, et tous les acteurs n'auront travaillé qu'en bio tout au long de la chaîne. Parce que si vous mélangez un produit bio avec un produit non bio, ça devient du non bio.
Alors moi, je suis agriculteur, j'ai ma ferme. J'ai besoin de vous pour certifier que je suis bio. Qu'est-ce que vous regardez avant de me donner cette certification ?
on appelle ça notificateur, peu importe le terme, mais en tout cas on est l'organisme officiel auquel un nouvel agriculteur qui passe en bio doit se déclarer. Il se déclare chez nous, c'est assez succinct ce qu'il nous raconte, il explique qui il est, où il habite, quelle est sa raison sociale, qu'est-ce qu'il fait comme production si c'est un agriculteur, et puis après il choisit un organisme de contrôle. Alors qui sont ces organismes de contrôle? Il y en a 10 en France qui sont habilités, ce sont des organismes privés, mais qui sont habilités par l'État à faire du contrôle. Alors vous en connaissez certains sur les 10, je pense à Ecocert, Bureau Veritas, Alpétude, etc. Mais peu importe, les noms sont disponibles sur notre site, les 10 sont de même qualité, et ils vont, eux, aller au moins une fois par an sur la ferme, voir si l'agriculteur respecte le cahier des charges. Ils peuvent aussi venir de façon inopinée. Et tout ça, ça va permettre de garantir aux consommateurs, finalement, qu'on est sûr que le produit est bien bio.
Ah, c'est-à-dire qu'il vient regarder comment je travaille, avec quels matériaux, et si je respecte les procédures, y compris les normes sanitaires et tout ça.
C'est ça, il va vérifier vraiment le volet spécifique à la bio, c'est-à-dire qu'il va vérifier quels produits vous utilisez, être sûr que vous n'utilisez pas de pesticides de synthèse. Pour ça, il va même évidemment aller éplucher votre comptabilité, regarder les factures, évidemment, pour voir si vous n'avez pas acheté les produits que vous n'avez pas. Parce que si vous achetez les produits, vous pouvez toujours dire que vous ne les avez pas utilisés, mais ce n'est pas très crédible. Il va éventuellement faire des mesures de sol aussi pour compléter son analyse. Enfin, tout ça revient à dire qu'il offre une garantie en disant, dans le contrôle que j'ai fait, je n'ai rien vu d'anormal par rapport à la réglementation bio.
Nous venons de finir une conférence de presse dans le cadre de la quinzaine bio, ce que vous appelez le printemps bio. C'est plein de chiffres sur l'état des lieux 2018. Là, c'est une bonne nouvelle, il y a une progression du bio.
Oui, la progression est très spectaculaire et elle est surtout très intéressante parce qu'elle est cohérente entre les producteurs, donc les agriculteurs, et les consommateurs. On a envie de dire, tout le monde avance à peu près au même rythme, un rythme élevé, très élevé, une croissance de 15 à 20% par an. Il faut tout revoir, on a des rendements qui sont plus faibles en bio, donc il faut travailler autrement et mieux valoriser ses produits. Souvent, quand on est en bio, on va davantage vendre ses produits localement, par exemple. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut réapprendre.
Au niveau du marché aussi, ça a augmenté le bio.
Le marché se développe beaucoup, les croissances à nouveau cette année de plus d'un milliard d'euros en un an, donc fin 2018. Un marché que nous estimons à 9,7 milliards d'euros, une croissance de plus de 20%. Et donc on est sur une démarche finalement qui, comme je disais tout à l'heure, accompagne la consommation et la production dans un rythme assez comparable. Mais pourquoi c'est comparable? Tout simplement parce que nos consommateurs sont très très attentifs à des produits bio français. En fait, ils disent « Ok, le bio, ça nous va bien ». Mais pour nous, bio, ça veut forcément plutôt des produits locaux. Et donc, on préférerait avoir dans nos magasins un produit qui soit d'une part bio et d'autre part local ou français.
Bah, c'est logique quand même, monsieur le directeur. Parce que si vous tuiez à faire un produit bio et que vous le transportez sur des milliers de kilomètres avec toute la pollution que cela implique, où est la logique?
C'est ça. Donc on a des consommateurs cohérents, on en est fiers. Donc il faut poursuivre dans ce modèle-là pour répondre à cette demande qui, comme vous le dites, est très cohérente.
Au niveau de l'élevage aussi, vous avez parlé de progression.
Oui, l'élevage se développe et c'est très important parce que finalement, une majeure partie des terres qui sont cultivées en bio aujourd'hui en France comme dans les pays du monde sert beaucoup à l'élevage. C'est de l'herbe, c'est des céréales, c'est... voilà. Donc on a intérêt aussi, bien entendu, à développer de façon concomitante l'élevage et la culture, notamment de fruits et légumes, de céréales, etc. Tout ça va ensemble. D'ailleurs, en bio, vous avez beaucoup plus de fermes qui se réinstallent dans un système où ils font ce qu'on appelle la polyculture-élevage, donc les deux, culture et élevage.
Ah, parce qu'on a besoin de l'élevage pour fertiliser, et on a besoin de l'agriculture pour entretenir les animaux.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a une forme, comme on dirait aujourd'hui, d'économie circulaire. Donc ça, c'est très intéressant et ça va à l'encontre finalement d'une spécialisation qu'on avait eue en agriculture depuis plusieurs dizaines d'années, qui avait certains avantages, mais qui avait l'inconvénient de moins respecter ces cycles naturels-là. Donc la bio, effectivement, contribue à remettre en place ces dispositifs vertueux.
Dans la conversion des élevages, il y a un terme que vous avez utilisé, les monogastriques. Ça veut dire quoi?
Alors, c'est ceux qui ont qu'un seul estomac. Donc on est,
ah oui, donc par exemple, les ruminants en ont plusieurs.
C'est ça. Donc c'est à l'opposition, si je puis dire, des ruminants. Donc on va y retrouver en particulier tous les porcins et puis les volailles. Donc c'est spécifiquement ces animaux donc, qui consomment notamment des céréales et qui amènent effectivement à avoir la nécessité de nourrir ces animaux obligatoirement quand vous êtes en bio avec des aliments bio. C'est-à-dire qu'un poulet, une poule pondeuse par exemple, vous avez la garantie si vous achetez vos œufs en bio que la poule aura été nourrie intégralement avec des aliments bio.
Ça veut dire que l'éleveur, là, il n'a pas du choix, c'est la nature qui a fait ça.
C'est ça. Il y a une obligation réglementaire, ça fait partie, on avait évoqué précédemment les contrôles. Quand un contrôleur va aller voir un éleveur de poules pondeuses bio, il va vérifier évidemment que toute la nourriture qui est donnée à ces poules sont, est de la nourriture bio.
Alors, autre terme qui mérite explication pour les profanes que nous sommes, vous avez parlé du développement des grandes cultures dans les zones intermédiaires. C'est quoi ces zones intermédiaires ?
Alors, vous connaissez assez facilement les zones céréalières très, très productives, hein, comme...
Oui, ça, on a ça dans le nord et tout.
Voilà. Et donc, il y a des zones, notamment, je pense, au nord de la Bourgogne, par exemple, à une partie des zones de la Lorraine, ces zones-là, où, en fait, vous avez un développement depuis plusieurs dizaines d'années de grandes cultures, donc notamment de cultures céréalières ou de production de protéagineux. C'est vrai aussi pour le sud-ouest de la France, et qui ne sont pas au rendement vraiment optimum qu'on connaît dans les plaines de la Beauce ou d'autres endroits de ce type-là. Donc c'est ça qu'on appelle les zones intermédiaires, et c'est là que se développent aujourd'hui les grandes cultures en bio. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en bio, vous allez baisser un peu de rendement, et donc il vaut mieux passer en bio finalement dans des zones où vous n'êtes pas à l'optimum de production dans une agriculture conventionnelle.
Cette histoire ne concerne pas que la France. Vous avez parlé de 310 000 fermes bio dans l'Union européenne, ce qui représente 13 millions d'hectares.
C'est vrai que c'est important de dire ça. La bio ne peut pas se limiter au territoire français, ça n'aura aucun sens. L'enjeu demain, c'est de développer l'agriculture biologique dans le monde. On commence à voir depuis 2-3 ans des études qui disent on est capable de nourrir l'humanité en bio, mais évidemment ça veut dire que toutes les cultures dans les pays des différents continents se développent vers l'agriculture biologique. Donc aujourd'hui en Europe il y a un développement important parce que les politiques européennes ont mis en place notamment la certification bio sur toute l'Europe, et puis ont mis en place parfois des aides aussi à la conversion bio, mais il y a d'autres zones dans le monde qui se développent en bio aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est de faire ça dans tous les pays. L'enjeu climatique, il est le même pour tout le monde. Il est même encore plus prégnant dans des pays du Sud où on sait que les conséquences vont être plus fortes. Alors c'est sûr, c'est plutôt les pays du Nord qui ont beaucoup pollué. La question n'est pas de savoir qui est responsable hier. L'enjeu, c'est de savoir comment on fait tous pour évoluer vers un modèle plus vertueux. Donc oui, vous avez raison, les enjeux climatiques, les enjeux de biodiversité sont les mêmes dans tous les pays du monde et il va falloir les résoudre globalement. L'agriculture a sa part de responsabilité et sa part de solution. L'agriculture biologique va jouer son rôle dans tout cela.
Ah ben une tornade, si le douanier siffle à la frontière, elle ne va pas s'arrêter.
C'est ça.
Par contre, il y a une boutade qui, moi, m'a beaucoup plu. La progression de la bière bio, vous avez lié ça à la Coupe du Monde.
C'est un pari que je fais. On verra si pour la Coupe du Monde féminine qui démarre dans quelques jours, on a le même effet. Hein, on pourra dire l'année prochaine, on aura aussi eu un développement des pizzas, des chips et des bières. Un pic autour du mois de juin, juillet. On verra si ça se vérifie tous les ans. Mais je pense en tout cas le côté festif des produits bio au-delà de la boutade était important à signaler parce qu'on n'est pas uniquement dans une bio où on va consommer des fruits et légumes. C'est évidemment le produit phare, le produit le plus symbolique d'une agriculture proche de la nature. Mais je crois que les Français ont aussi envie de l'exprimer de produits bio pratiques pour déjeuner le midi, pour faire la fête avec des amis, etc. C'est important.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nous étions en compagnie des premiers responsables de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique à l'occasion de la quinzaine du printemps bio 2019. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Sophie Janet, au micro Sayouba Traoré.
Merci madame.
Merci.
J'ai de la lecture dans le métro. Merci.
Merci à vous.
Okay.
Pour ceux qui veulent nous écrire, le coq chante à @rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coq chante. Enfin, pour écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.